Père Philippe, théologie mystique, le sacerdoce du Christ. Le 2 avril 87, Rimont.
pas une fonction, puisque c'est une vie. Si on est fonctionnaire, on ne donne pas sa vie pour sauver les brebis. On est un mercenaire. Et on sait bien tondre les brebis au bon moment. L'Antichrist donne sa vie pour ses brebis. Il est un pasteur. Alors à ce moment-là, on comprend que le sacerdoce n'est plus une fonction. Que le sacerdoce implique la vie. Vous voyez, si le sacerdoce n'est qu'une fonction, on peut être prêtre pour 10 ans. Puisque ça a été posé comme question. Est-ce qu'il ne faudrait pas beaucoup mieux être prêtre pour 10 ans? 15 ans, 20 ans, 45 ans, 50 ans, c'est un exploit. Alors on voit très bien, c'est vrai, hein, quelqu'un qui a contenu, qui était pendant 50 ans haut fonctionnaire, c'est quelque chose. D'abord c'est presque irréalisable, il faut le temps d'y arriver. Et puis alors après, on reste un certain temps. Oui, c'est le prêtre mesuré par le point de vue de la durée. Tandis que c'est une question de vie. On comprend alors. C'est tout autre. Le prêtre donne sa vie pour ses brebis. Le Christ donne sa vie pour les brebis du Père. C'est ce que nous devons essayer de comprendre à travers la manière dont Saint Jean nous donne cette dernière semaine. Manière dont le Christ a vécu cette dernière semaine. Alors, nous étions donc, la petite discussion, évidemment, c'est moins direct. C'est quand même intéressant de regarder cette discussion avec le souci de découvrir la sollicitude paternelle de Jésus auprès des brebis du Père, auprès de ses brebis. Que votre cœur ne se trouble pas. Donc, c'est montrer cette sollicitude paternelle qui doit envelopper tous les brebis, pour les empêcher de se troubler. Maintenir l'espérance. Et toute la pédagogie de l'espérance, ce serait très beau. Il y a la pédagogie de la foi, il y a la pédagogie de l'espérance, il y a la pédagogie de l'amour. Démon, c'est toujours d'enlever la Voyez le poisson de mer. puissance. Au contraire, on sait les heures où il est là. De bonne humeur ou de mauvaise humeur, mais on sait où il est là. Autant que possible, on frappe quand il est de bonne humeur. Et quand un prieur est toujours de bonne humeur, on peut tout le temps frapper, c'est merveilleux. Et quand un prieur est de mauvaise humeur, ça lui permet d'être seul pendant un certain temps. C'est merveilleux, ça. On sait qu'à ce moment-là, le lion rugit. Alors laisse tranquille, on va pas se mettre tout près. C'est la grande astuce d'avoir des moments de solitude, vous voyez. Parce que on va pas exprès se mettre dans la gueule du lion, non. L'autorité permet à l'obéissance d'être personnelle et de nourrir notre espérance. Tandis que l'anonymat supprime l'obéissance parce que elle rend l'obéissance floue. C'est pour ça qu'on doit exiger des supérieurs d'exercer l'autorité. C'est très important, ça. C'est comme ça qu'on se fortifie. C'est pas drôle d'exercer l'autorité aujourd'hui, on le sait bien, c'est pas une sinécure, hein. C'est pas drôle. D'exercer l'autorité sur vous. Ça, c'est très important, parce que ça donne une très grande force au point de vue d'espérance. Et ça fortifie notre espérance. Mais c'est intéressant de voir que Jésus souligne, dans la dernière semaine, le grand danger, la perte de l'espérance. Je crois que ce que nous vivons actuellement, ce qu'il y a de plus terrible, c'est la difficulté pour le peuple chrétien d'être dans l'espérance. C'est la tentation la plus grande. Et je crois que pour la vie religieuse, c'est la même chose. On n'a plus l'espérance qu'on devrait avoir. Vous voyez, l'espérance, ça a un dynamisme de conquête. Et l'espérance chrétienne, c'est un dynamisme de victoire. On est des victorieux dans le Christ. Et le démon nous fait croire que pas du tout. C'est la défaite. La défaite partout. Alors à ce moment-là, on perd l'espérance. On la perd pas tout de suite. On commence à glisser. Alors ça, c'est très très fort. Hein, parce que Jésus là se fait pédagogue dans son sacerdoce de l'espérance. Il faudra voir où ça se situe, la pédagogie de l'espérance dans le sacerdoce du Christ. Il faut au moins se poser quelques petites questions. Hein. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, de nouveau je viens et je vous prendrai auprès de moi pour que là où je suis, moi, vous aussi vous soyez. Ça, c'est le retour du Christ. Le retour du Christ. Pour nous. Et pour aller où moi je m'en vais, vous savez le chemin. Bon. Ce petit passage, c'est donc Jésus explicitement qui prévient en face on est d'église, non pas à cause de ce qu'elle est actuellement, mais ce qu'elle est dans la pensée de Dieu. Ça, qu'importe. Autrement, vous avez une espérance de positiviste qui n'est plus l'espérance divine. Autrement, vous vous appuyez sur la force des chevaux et des chars, ce qui est contraire à ce que dit l'Écriture. Vous vous appuyez sur des hommes. Dans la communauté, il y a quand même quelques personnes qui sont bien. Donc ça va. Mais si cela n'était pas là, quelle pagaille! Ce qui est parfaitement vrai. Ça. Toute communauté, ça peut pas être autrement. Alors, on n'entre jamais et notre espérance ne repose pas sur les chars et les chevaux. Notre espérance repose sur l'intention profonde du Père sur nous. Vous voyez, c'est pour ça que c'est si important d'être reconnu par l'Église. Parce que ça, c'est le son qui montre que c'est bien un moyen de sanctification. C'est pas le seul, c'est bien évident, mais c'est un moyen de sanctification, puisque c'est reconnu par l'Église. Alors on sait qu'on le vit plus ou moins bien, mais on essaie de le vivre de plus en plus. C'est bien ça que Jésus enseigne, ça je crois que c'est très net. Alors le chemin, c'est l'Église. C'est l'Église le chemin, c'est la route. C'est le chemin qui conduit à la sainteté, qui conduit au Christ. Et dans ce grand chemin, il y a des petits sentiers. Et pour ceux qui entrent dans la communauté Saint-Jean, le petit sentier c'est la communauté Saint-Jean. Ça c'est sûr. C'est la foi. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu t'en vas. Comment saurions-nous le chemin? C'est très logique, hein, Thomas. Thomas est très rationnel, hein, faut pas l'oublier. C'est le patron des raisonnements, Thomas. C'est pour ça qu'il arrive en retard. Hein. Parce que quand vous raisonnez trop, vous arrivez toujours en retard. C'est vrai. Il y a des moments où il faut laisser l'Esprit Saint quand même un tout petit peu souffler et comprendre que l'Esprit Saint ne raisonne pas. Heureusement, il ne serait plus l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint raisonnait, il souffle. Il y a moins de raisonnable que le souffle. Comme image, c'est merveilleux. Ça, c'est le souffle. Et on nous demande en docilité au souffle de l'Esprit Saint. Et c'est dit à Nicodème, hein, cet homme qui aimait de raisonner. Tu ne sais d'où il vient et où il va. Supprime tes raisonnements. Tous les jours, pendant un certain temps, supprimons nos raisonnements. Et laissons le souffle de l'Esprit Saint. Vous avez le droit de le faire. Au moins pendant l'oraison. Et quand on le fait pendant l'oraison, quelquefois, il y a des petits zéphyrs pendant la journée. On n'a qu'à laisser le Saint-Esprit. C'est très beau l'affection de Thomas. Hein. C'est l'affection raisonnable, prudentielle. Mais tu veux qu'on connaisse le chemin, on ne sait même pas où tu vas. Mais quand même, les apôtres devaient se dire Jésus quand même, c'est pas très concret, ils pourraient quand même nous dire, hein, nous donner une carte Michelin de notre cheminement de sainteté. Il nous dit même pas où il va et puis il nous dit qu'on connaît le chemin. C'est pas concret du tout. Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient vers le Père que par moi. Donc la méthode. sur la loi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est de plus en plus invraisemblable. Thomas demande une explication concrète. Et je suis dit cette chose inouïe. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Le rationaliste Thomas, hein. Voyez, c'est cette direction spirituelle de Jésus pour Thomas. Et c'est une direction spirituelle la plus parfaite qui soit. Jésus est en train de repêcher ce Thomas qui glisse, qui commence à raisonner sur la fin de la vie de Jésus. la foi contemplative, ça. Et Jésus, voyez, Jésus reproche à Philippe de ne pas avoir saisi cela. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, c'est un regard contemplatif. Comment toi, tu peux dire, montre-nous le Père. Ça, c'est la méditation. C'est la méditation avec ses raisonnements. Je continue de raisonner dans la méditation. C'est même les plus beaux raisonnements que je peux faire dans la méditation. C'est pour ça que dans la méditation, on demande farouchement d'être seul. Dans la contemplation, ça n'a beaucoup moins d'importance. Quand vous contemplez, qu'on vous demande un service, ça vous est égal. Quand vous méditez, qu'on vous demande un service, vous êtes de mauvaise humeur. C'est curieux, mais c'est comme ça. Parce que quand vous contemplez, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est l'accomplissement de la volonté du Père. Il n'y a rien d'autre qui compte. Accomplir la volonté du Père. C'est ça, être finalisé. C'est accomplir la volonté du Père. Je ne suis finalisé que quand j'accomplis la volonté du Père. Dès que vous n'accomplissez plus la volonté du Père, vous n'êtes plus finalisé. Et la contemplation me permet de vivre cela dans la plus grande simplicité. J'accomplis la volonté du Père. Je ne quitte pas la contemplation. Parce que dans la contemplation, je suis tenu par Dieu. C'est Dieu qui me tient. Tandis que si je médite et que ça commence à aller bien et qu'on vient me chercher en me disant un service, vous êtes en première réaction de mauvaise humeur. Une fois de plus, on me dérange. Alors que ça allait si bien. On commençait à méditer. Et là, vous êtes dérangé. Ça supprime votre méditation. Ça supprime la petite satisfaction que vous aviez de méditer. Parce que la méditation réclame la solitude. La contemplation. Elle existe même au milieu des agitations. Elle existe à la croix, dans le cœur de Marie, dans le cœur de Jean. Il n'y a pas beaucoup de silence à la croix. C'est tellement important de comprendre ça. Moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres mêmes. Si vous ne pouvez pas entrer dans cette voie contemplative, ayez au moins cette voie pratique. Cette voie pratique qui commande la méditation, qui commande nos activités. Alors on croit dans les œuvres. Les œuvres sont des signes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera de plus grandes, parce que moi je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. L'efficacité merveilleuse de la prière. Oui, ce passage pour comprendre la différence qui existe entre la contemplation et la méditation. La méditation a un rythme humain, la contemplation a un rythme divin. Il faut avoir soif de contemplation pour être libre. Si vous restez dans la méditation, vous ne serez jamais libre. Vous serez toujours avare de votre temps. Parce que c'est le prof de la méditation. méditer. J'allais dire pour contempler en disant l'éternité. Donc on a tout le temps qu'on veut en disant l'éternité. Ah, prudemment, on laisse du temps pour contempler. Mais dans l'éternité, on a l'éternité, donc on a une souplesse. C'est important de voir que Jésus, jusqu'au chapitre 7, nous entrons dans cette présence du paraclet. Je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet pour être avec vous à jamais. Voilà, toujours en référence avec nos sens de l'Écriture. Quel est le sens littéral? Posez-vous la question. Quel est le sens littéral propre quand Jésus dit cela? Je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet pour être avec vous à jamais. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Oh.